toutes et à tous, fidèles auditeurs de Radio Lunaire. Aujourd'hui, nous embarquons dans la loge d'Alex Vizorek. Nous sommes donc au théâtre du Poulien. Il est 18h30 et dans 2 heures, Alex monte sur scène. Avant cela, il nous fait l'honneur d'un entretien confidentiel, alors ouvrez grand vos oreilles.
Confidentiel? Qu'est-ce que vous allez me demander?
Monsieur Vizorek?
Oui, bonjour madame.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour les personnes qui vous connaissent peut-être pas?
Alors, je crois que sur mon compte Twitter, il y a marqué « humoriste belge ». Ce qui me semblait être la bonne description pour quelqu'un qui ne saurait pas du tout ce que je fais, qui je suis. Humoriste, je trouve que c'est important parce que ça permet de ne pas prendre toujours au premier degré ce que je pourrais raconter. Belge, j'ai eu très longtemps l'impression que ça rassurait les Français parce qu'on était un petit peu décalé, un petit peu exotique et que c'était plutôt un truc qui nous rendait sympathiques. Donc voilà, à part ça, j'ai 43 ans. Et je fais ce métier depuis une quinzaine d'années. Et avant ça, j'ai fait des études d'ingénieur de gestion et de journalisme, comme vous.
Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être journaliste et humoriste?
En fait, c'est pour ça que j'aime bien m'adresser aux plus jeunes, parce que je sais que votre génération, sans dévoiler votre âge, mais quand on a 18, 19, 17, on se demande bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quelle est notre place dans la société. On voit des gens très installés, on se dit mais pourquoi il me donnerait sa place, pourquoi un jour je serais cette personne. C'est très vertigineux, j'ai trouvé ça vertigineux. Encore plus peut-être pour les garçons, on est moins mature que les filles à cet âge-là. Donc je savais vraiment pas quoi faire et où être utile. Et je savais même pas bien ce qui me plaisait, moi. Alors, j'ai fait des trucs considérés comme difficiles. J'ai fait ingénieur de gestion, qui est sans doute une des études les plus difficiles, c'est école de commerce en gros. Il y avait médecine, il y avait droit, il y avait ingénieur complètement, mais c'est trop de chiffres. Droit, c'était trop de mots. Et médecine, je pense qu'il fallait une vraie vocation. Et donc, j'ai fait école de commerce, mais sans vraiment savoir. Et j'ai fait quand même 5 ans à me rendre compte que je réussissais, mais pas très bien, mais je réussissais. Et donc j'ai un diplôme qui est super, que beaucoup de gens aimeraient avoir, mais je ne l'ai jamais utilisé. Une fois que j'avais commencé, je me suis dit, je ne vais quand même pas arrêter, ça vaut la peine de terminer. Quoi qu'il m'arrive, j'aurai un diplôme, et beaucoup de gens ont quand même regardé des CV pour engager. Et je me suis dit, mais je crois que j'aime mieux faire, vers 21-22, peut-être j'aime mieux faire des métiers où l'oralité est présente, donc je suis allé vers le journalisme, et là, un peu pareil, je me remarque que je suis un peu meilleur qu'en école de commerce. J'aime bien les gens, j'ai très bons amis en école de commerce, mais en journalisme, je trouvais que les gens étaient plus curieux, étaient plus différents. Et donc je rencontre d'autres types de gens, ce qui était bien aussi. Et puis à la fin de ça, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je n'irais pas jusqu'à ce qui m'a toujours amusé, parce que j'ai fait du théâtre étant gamin et tout. Je me suis dit, quitte à essayer de rentrer dans un milieu, autant rentrer dans celui-là, vu que quand même, il n'y a pas de raison que je sois plus journaliste ou que je sois plus banquier. Et je suis venu à Paris, là j'avais 23-24 ans, faire les cours Florent pour être acteur, en me disant, si peut-être bien je vais apprendre quelque chose, peut-être bien je vais être bon, j'en sais rien. Et c'est là que c'est cocasse, c'est que je ne suis pas spécialement bon en tant qu'acteur, enfin pas plus que tous les gens autour. Mais on découvre que je découvre que je suis bon aussi à écrire des choses, et je suis peut-être même meilleur là-dedans, et quand c'est moi qui écris, je suis meilleur comme comédien. Et donc, ce qui n'était pas vraiment prévu, je me trouve vraiment agréablement surpris par ce métier joyeux qu'est le comique. Et je n'ai jamais vraiment quitté. Après, tout ce que j'ai fait avant m'a aidé. Quand j'ai dû créer ma société, tout ce que j'ai fait en économie, c'était utile, je me suis dit, mais en fait, t'es moins con qu'un autre parce que t'as pris de l'avance. Le journalisme, quand il a fallu parler dans un micro, en fait, je l'avais déjà un peu fait, j'avais un peu appris. Et donc, en fait, tout ce que vous faites, même si vous vous trompez de chemin, en général, c'est utile.
Et étant lycéenne, on nous dit souvent que les années de lycée, c'est aussi une des plus belles qu'on garde en souvenir. Est-ce que vous avez des petites anecdotes de votre lycée?
Ouais, moi, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais le moment où je me suis senti devenir un grand ou... c'est quand j'ai reçu pour mes 17 ans une mobilette. Et parce que, histoire de famille, mais mon oncle était décédé à moto, donc ça faisait beaucoup peur à ma grand-mère. Donc à 16 ans, alors que j'aurais pu, ma mère a dit non, on ne lui offrira pas. Puis elle s'est dit, mais il n'y a pas de raison, il n'a pas à être tributaire de l'histoire familiale. Donc m'a offert une mobilette avec un gros casque. Donc vraiment, si je tombe, il ne m'arrive rien. Et j'ai adoré ces années-là parce que c'est les années de début de liberté. Ouais, les deux dernières années de collège, comme vous dites ici, c'est pas pareil en Belgique, mais c'est à peu près le même âge. Donc 17, 18, c'est super. Et les premières années d'université sont bien aussi. Hein. Je sais pas si vous allez aller quelque part. C'est quoi, c'est Nantes si on...
Je sais pas trop pour l'instant.
Ouais, mais c'est ça. Bon, bah, après, c'est vrai qu'en France, on peut vous envoyer à l'autre coin du pays. Ouais, ça arrive beaucoup, ça. Oui. Chez nous, bon, bah, c'était pas loin. Je pouvais, à distance de mobilette, je pouvais y aller. Mais donc profitez-en bien, mais il faut jamais croire que c'est pas parce qu'on vous dit des vieux darons que c'était des bonnes années que si vous vous les trouvez pas bonnes, vous vivez pas quelque chose. Par exemple, moi je le dis de temps en temps, ça énerve un peu ma mère. Je dis moi mes années de gosse, j'ai pas trop aimé ça. Genre 10, 12 et elle me dit mais t'étais heureux, on t'a tout donné. Je dis je sais, je vous demande pardon, mais j'ai pas un souvenir. J'ai l'impression de m'emmerder un peu, ma sœur était trop petite, donc on n'avait pas de fusionnalité avec le recul. Mais je pense que m'ennuyer m'a aidé aussi. Hein. Ça, donc voilà, il n'y a pas de... Vous sentez... Si vous ne passez pas les meilleures années de votre vie, c'est pas très grave. Voilà, sachez-le.
Comment définirez-vous votre humour en quelques mots?
Pop, 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 c'est très difficile ça. Je crois que ça s'explique pas trop, je pourrais pas le formuler en vrai. Je peux reprendre ce que certains disent. Comme j'ai choisi des sujets un peu pseudo-intello, il est arrivé qu'on dise un humour intelligent, mais je trouve que c'est, pour moi, c'est un oxymore. Parce que ça n'existe pas, à mon avis, ça n'existe pas de l'humour intelligent. Parce que si c'est intelligent, de facto, c'est pas complètement drôle. Et si, en revanche, si c'est drôle, ça peut être un peu intelligent. Mais, et puis ça fait peur aux gens de dire humour intelligent, parce que les gens, les Français sont plus modestes qu'on ne le pense, s'estiment parfois par intelligent. Il m'est arrivé d'avoir des gens qui sont venus me voir en disant mais je pensais vraiment le spectacle sur l'art, je pensais que j'allais rien comprendre, mais j'ai ri pendant 2 heures et j'ai rien que j'ai pas compris. Je dis bah ouais, c'est mon boulot quand même que vous compreniez tout, et franchement, si tu ne comprends pas, tu ne ris pas. Donc vraiment, j'essaye de réfuter ce terme là, mais du coup, je vois bien ce qu'ils veulent dire. J'aime bien choisir de traiter des thématiques, en tout cas sur scène, qui sont inattendues. En humour, l'art et la mort, a priori, c'était pas les thématiques les plus traitées. Et sinon, je m'estime vraiment chansonnier à la radio, à la télé, où je traite l'actualité, où je traite le politique, le géopolitique, voilà tout ça.
Et quelle place tient le rire dans votre vie? Et pas le fait de faire rire, le rire.
Bah, je crois que les deux vont un petit peu ensemble, mais je pense pas être le mec le plus drôle de mon groupe d'amis, par exemple. Je pense que quand je vais à un barbecue avec mes copains, il y en a vraiment 2-3 qui sont beaucoup plus marrants que moi, et ça me détend. C'est-à-dire que, et comme on s'est connus avant, ils n'attendent pas de moi que je fasse le spectacle. Ça me rassure, et puis j'aime bien rire quand les autres sont marrants, c'est vraiment. Et j'aime beaucoup aller voir des humoristes. Je suis allé voir Tranier il y a une semaine. Dès que je peux, je vais au spectacle voir des copains. Et je n'imagine pas ne pas rire. Enfin, ça va être philosophique, ou je sais pas, ou peut-être un peu maladroit, mais. C'est-à-dire que le monde, il est difficile, et puis on nous le rend, quand on allume la radio et qu'on écoute les journaux, en général, ils commencent pas par les infos les plus marrantes. Et ma foi, c'est important, et c'est important de s'informer. Mais je pense que si à côté de ça, on ne rit pas, donc moi, j'ai la chance de, dès que le journal est terminé, c'est à moi de parler à peu près. Donc je peux tout de suite désamorcer ça, et je suis très heureux d'arriver le matin à RTL, de voir Philippe Cabrivière, on rigole à deux, on se demande ce qu'on a écrit chacun... Le soir, quand je bois des coups avec des potes, si je ne ris pas, si c'est pesant, mais même j'aime pas les mondanités, par exemple, parce que en fait, mondanité, on fait toujours un peu semblant de rire, on tape son verre, on connaît pas bien la personne à qui on parle, et en même temps, c'est important qu'on la connaisse. Et donc ça, je trouve ça moyennement sympathique. Donc vraiment, j'essaye de me diriger vers là où ça rit.
Vous nous avez expliqué que l'écriture, c'est un peu un processus. Est-ce que vous trouvez que c'est plus dur d'écrire pour la radio ou pour écrire pour vos spectacles ou en général pour le...
C'est deux façons de faire différentes. C'est comme à mon avis, parce que je sais pas le faire, c'est comme si vous demandiez à un peintre si c'est plus dur de peindre à l'aquarelle ou de peindre à l'huile. Je pense que l'aquarelle est plus comparable à la radio, c'est-à-dire que on peut faire des grands traits et puis ça bave un peu et puis quand même on voit de quoi on parle, et puis de toute façon c'est pas quelque chose qui est voué à durer dans le temps. Je fais ma blague, je l'essaye. Il y en a des dont je suis très fier, elles sont très bonnes, c'est pas la question. Mais je l'ai dit une fois. Et donc je sais aussi qu'elle doit résonner juste le jour même, mais si on la réécoute dans 2 semaines, on s'en fiche. Le spectacle, c'est pas du tout pareil, c'est des blagues qu'on peaufine. Il y en a encore, après 350 représentations, que je trouve que j'ai mieux dit hier que je ne l'avais jamais dit. Et donc ça, c'est super. Là, on est vraiment dans l'horlogerie, quoi. C'est plus comparable à ça. C'est-à-dire que chaque mot, chaque blague, chaque intonation est travaillée. Je sais pas, j'ai dû dire des textes 300, 400 fois. Donc à ce moment-là, c'est plus du tout le même rapport à ce texte-là. Et il est fluide. Et je pense que si on regarde mon spectacle dans 10 ans, il n'aura pas trop vieilli. Les gens continueront à mourir, quoi. A priori.
C'est en lien. Pourquoi avoir choisi la mort ?
Ben parce que j'aimais bien l'idée des thématiques. Moi, j'ai un petit côté bon élève, c'est-à-dire que j'aime bien que le spectacle soit une dissertation, une rédaction, je sais pas comment vous dites, un travail sur un sujet, quoi. Et donc, le premier, c'était sur l'art, et je m'étais mis comme contrainte d'écrire un sketch sur chaque type d'art. Et ça me donnait une espèce de... comment dire, une contrainte, un truc, façon de m'asseoir à la table et de me dire, bah, tiens, parle de sculpture aujourd'hui et qu'est-ce que tu vas faire. Et comme les gens ont bien aimé l'idée qu'il y ait une thématique, parce que tous les humoristes n'ont pas toujours une thématique, je me suis dit, il faut que j'en trouve une autre pour le deuxième, et puis je me suis dit, qu'est-ce qui serait la thématique la plus difficile à traiter en matière d'humour, et que donc, c'est pas une prouesse, hein, mais quand même c'est marrant de se dire, pendant 2 heures on parle de la mort et en fait on fait que rigoler, donc je me suis dit, essayons ça. Tout le monde n'était pas sûr de moi non plus d'ailleurs. Et au fur et à mesure, on a constaté que oui, ça marchait quand même.
Et justement, la mort, c'est pas forcément un sujet qui est très employé dans l'humour, mais pourtant, c'est universel, mais ça reste un peu tabou. Comment le public réagit et est-ce que c'est différent en fonction des pays
Non, pas en fonction des pays. Alors, je peux parler que de la culture francophone. Alors, je vais bientôt aller jouer au Québec et sans doute bientôt, enfin, c'est sûr aux États-Unis, mais ce sera pour des francophones. Mais le Québec, peut-être, il y a un truc un peu marrant là-dedans. Moi je pense qu'ils sont, ça ira très bien, mais ils sont quand même un peu plus influencés par la culture américaine. Pour revenir sur oui, l'universalité et le potentiel tabou, oui, et ça m'ennuie encore un peu, mais je peux pas faire autrement. Il m'arrive que des gens à la sortie viennent me dire j'ai vraiment adoré, mais je connaissais pas la thématique, et si j'avais su, peut-être, je crois, je serais pas venu. Et le fait que les gens me disent ça, ça me convainc dans l'idée qu'il y en a vraiment qui ont pensé ça et qui ne sont pas venus. Et donc, ils regarderont à la télé, peut-être, et ils se diront, putain, on était cons, parce qu'en fait, c'était pas vraiment très angoissant. Je pense que, enfin, je suis sûr, si vous êtes angoissé ou si vous réfléchissez à quelque chose de personnel en regardant le spectacle, parce que ça vous ramène à ça, vous ne rirez pas. Donc, moi, j'ai tout fait pour que j'enlève quelque chose qui pourrait toucher les gens au point de se dire waouh, mais en fait j'étais à l'enterrement de mon grand-père il y a 2 semaines et j'ai pas envie de rire parce que ça me rappelle ça. Tellement de gens sont venus me parler après et aucun ne m'a dit ça. La plupart des gens viennent me dire bon, c'est chouette parce que j'ai eu ça. Des gens m'ont dit ouais, on était à l'enterrement il y a 5 jours, j'avais plus ri depuis, franchement ça fait hyper plaisir, donc je préfère ça. Enfin, ça m'arrange que ce soit ça le retour.
Est-ce que vous avez une jeune ou un jeune humoriste à nous conseiller?
Une jeune ou un jeune humoriste à vous conseiller? Qu'est-ce que je vais dire? Parce que j'en ai plein, j'aime bien aller voir. Il y a une jeune belge là qui a fait ma première partie et qui arrive bientôt à Paris, qui s'appelle Sarah Lélé. L-E-L-E. Elle a 22 ans, elle envoie du bois, elle raconte sa vie. Franchement, mais je peux en donner plein d'autres, des Belges avec qui je bosse. Et puis après, il y a des moins jeunes, mais qui viennent d'arriver en France, qui ont déjà presque des stars. Elena Nagapétian, elle est arrivée dans le métier il y a très très peu. Et en 2 ans, c'est devenu une énorme star. Donc, non, moi j'aime bien, je suis curieux, ils font le métier autrement, ils parlent d'autre chose, c'est dans le spectacle. Il y a quelqu'un qui crie, mais c'est une vidéo de spectacle. Donc, non, moi je trouve que c'est important de pas se... Je crois qu'il y a pas mal d'artistes un peu âgés qui tournent le dos à la jeune génération parce qu'ils trouvent qu'ils se reconnaissent pas dans leurs chansons, dans leur humour, dans leur... Ça va trop vite, ça va différemment... Quand des vieux artistes critiquent le rap, moi j'aime pas spécialement le rap, c'est pas la question, mais je trouve que c'est chouette à écouter, quoi. Il m'est arrivé d'écouter des chansons de rap en me disant putain, c'est vachement bien écrit. Et je trouve qu'il faut prendre la peine. Si vous me dites, vous là, Alex, t'es un peu un daron, il faudrait absolument que t'écoutes machin. Et ben en sortant, j'ai écouté machin. Mais je pense que ça tient de la curiosité artistique globale. Le jour où j'écouterai plus les gens qui arrivent ou où je m'intéresserai plus à eux, c'est qu'il faudra que je prenne ma retraite parce que j'aurai fait mon temps, quoi. C'est que ça m'excite plus de savoir ce qui se fait dans mon métier.
Est-ce que vous avez un ou deux conseils pour un jeune qui voudrait se lancer dans l'humour ou dans créer un spectacle comme vous avez fait ?
D'y aller avec grande passion, ça c'est sûr, et de pas se poser trop la question du chemin. Parce que parfois je me dis, si je regarde le chemin, peut-être je le refais pas, parce que quand même il est long, et, enfin, même si pour moi ça n'était pas si long que ça, mais il est quand même long, et c'est, il est fait de moments plus difficiles, donc, mais jamais en le faisant le chemin, je me suis dit c'est difficile, je me suis dit bon, on a pris un bide aujourd'hui, c'est pas grave, mais c'est vrai que maintenant si je me retourne, je me dis est-ce que j'irai reprendre tous ces bides, est-ce que j'irai dans des petites salles où il y avait 8 personnes, et j'étais content de le faire. Donc, ben en fait, oui, bien sûr. Si j'étais ce jeune aujourd'hui, je suis sûr que je ferais ça. Mais non, je suis celui qui a déjà vu le chemin, donc c'est pas un bon référent. Mais après, aussi, être plutôt à même de toutes les nouveautés de son temps. Moi, quand j'ai commencé, il y avait Facebook, mais je veux dire, tout ce qui est arrivé après, les réseaux, les TikTok, c'est quelque chose qui permet à beaucoup d'humoristes d'exploser. Donc, il faut... Je pense essayer toutes ces choses-là, que moi j'étais déjà un petit peu existant quand ça existait, quand tout est arrivé, donc j'essaye de jeter un œil, mais je me sens parfois un peu dépassé. Et ça, là par contre, je suis incapable de dire qu'est-ce qui ferait rire aujourd'hui sur TikTok, mais eux ils doivent bien le savoir.
Donc je vous posais un petit jeu, c'est assez simple, je vais vous poser une question fermée, donc vous pouvez répondre oui, non ou passe.
D'accord, j'ai droit à passe.
Et pendant une minute.
D'accord.
Je vais juste mettre.
Donc il faut que ça aille vite, quoi.
C'est ça.
Je compte dans ma tête, hein, si tu veux. Pas de problème.
Ok, merci. Donc, la Belgique est-elle mieux que la France ?
Non.
Vos sketchs dont vous êtes le plus fier sont-ils ceux qui ont le mieux marché ?
Non.
Est-ce que pour 1 milliard d'euros, vous arrêteriez l'humour ?
Ah, c'est sale comme question, parce que c'est beaucoup d'argent, quoi. Si on m'interdit complètement de faire de l'humour et de faire des blagues, même chez moi, non.
Est-ce que vous vous sentez toujours belge malgré votre carrière en France depuis de nombreuses années ?
Oui, bien sûr.
Tout le monde peut-il devenir humoriste ?
Je dirais oui parce que je crois beaucoup à la valeur travail, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui ont des meilleures aptitudes que d'autres.
Peut-on rire de tout ?
Oui.
Avez-vous peur de la mort ?
Non, je crois pas, mais pas encore.
Ad vitam est-il votre meilleur spectacle ?
Oui.
L'exercice de la...
Mais ma mère pense pas ça. C'est pour donner un contre... Pardon.
L'exercice de la chronique radio, c'est facile ?
Non.
Depuis tout petit, vous avez toujours voulu devenir humoriste ?
Non.
Très bien, merci.
Merci, pour votre question.
C'est super, nous sommes ravis de vous avoir accueillis, vous serez notre première dédicace. Il est temps maintenant pour nous de laisser Alex Vizorek se concentrer pour sa représentation en le remerciant infiniment pour cet entretien. Son spectacle Ad Vitam part du postulat que la mort peut concerner pas mal de gens. En réalité, c'est avant tout un hymne à la vie. Mais chut, le rideau se lève déjà, place au spectacle. C'est Anna et Angelina pour Radio Dunaire du lycée Grand Air.